Oui, plutôt incombable dans la mesure où ce sont des événements qui se sont succédés, pas vraiment une bataille au sens où on l'entend généralement, mais plutôt deux ou trois vagues d'insurgés qui vont venir ici à Saint-Gervais et qui vont affronter donc les troupes républicaines qui étaient à la fois à Beauvoir et à Saint-Gervais.
Des troupes qui se dirigeaient vers l'île de Noirmoutier.
Oui, alors le général Boulard, donc qui commandait cette armée républicaine chargée de reconquérir donc la zone maraîchine, avait pour but final effectivement de s'emparer de Noirmoutier, qui était tenu d'ailleurs par un chef vendéen de Saint-Gervais, aguerri de la Fortinière. Et il s'est avancé donc jusqu'à Beauvoir pour s'apercevoir qu'en fait, le terrain était impraticable, notamment pour de l'artillerie. Et donc, il a arrêté, si vous voulez, son mouvement. Mais comme les Vendéens arrivaient sur ses arrières, il a été obligé évidemment de faire face à l'arrivée des insurgés.
À quoi ressemble ce 15 avril 1793 pour les habitants du nord-ouest Vendée, notamment de Saint-Gervais ?
Bah écoutez, je pense que actuellement ça ressemble pas à grand chose parce qu'en fait c'est un petit événement entre guillemets qui a peu marqué, je pense, les mémoires, même si symboliquement, si vous voulez, le combat de Saint-Gervais, c'est aussi la mort de Gaston, qui est ce perruquier de Saint-Christophe de Ligneron, à qui on a attribué le commandement de l'armée vendéenne, chose qui était tout à fait inventée.
C'est-à-dire, alors racontez-nous cette histoire.
Jean-François Gaston, donc c'est un perruquier de Saint-Christophe du Ligneron qui vraisemblablement tue un officier républicain, s'empare de son uniforme et qui va fédérer autour de lui quelques dizaines de personnes, mais un très très petit nombre. On sait qu'il est à la Garnache, si je me souviens bien, le 12 mars. Peut-être avec l'épouse de François-Marie de la Rochefoucauld, donc qui est ce capitaine de vaisseau qui lui a émigré. La comtesse de la Rochefoucauld, comme on l'appelle, va elle aussi rassembler des troupes autour d'elle, avec notamment le chirurgien Barrault. Et il semble que Gaston donc, se soit aggloméré à cette troupe. Mais on ne sait trop pourquoi. On a parlé par la suite du général Gaston, qui aurait envoyé donc des émissaires en Angleterre pour demander des secours. Et on ne sait pas très bien comment tout ça s'est amalgamé pour en définitive faire de Gaston le chef des insurgés vendéens, chose qu'il n'était pas du tout, bien entendu.
En tout cas, en avril 1793, voilà, toutes les communes du nord-ouest Vendée sont vraiment engagées dans ce combat.
Oui, alors toutes les communes ont effectivement des contingents de troupes qui vont participer au grand événement, si vous voulez, de la région, c'est-à-dire l'attaque des Sables d'Olonne, puisque c'est effectivement, on peut dire en mars 1793, dans le nord-ouest, l'événement majeur, si vous voulez, de la région, c'est l'ambition qu'ont les insurgés vendéens, ou au moins leur chef, de s'emparer du port des Sables d'Olonne pour éventuellement permettre l'arrivée des Anglais. Mais ils avaient déjà Noirmoutier. Hein. Donc il y a, si vous voulez, une espèce de schéma général de conquête de la côte et des ports de la côte pour pouvoir évidemment s'ouvrir une porte sur l'étranger.
En quoi ce 15 avril marque, alors si ce n'est un tournant, un événement de cette période ?
Le 15 avril, pour moi, si vous voulez, c'est un peu le coup d'arrêt dans l'insurrection des maréchins. Parce que les maréchins participent donc d'abord à l'attaque des Sables. Après la reconquête de Boulard qui s'engage donc le 7 avril, les troupes, entre guillemets, maréchines refluent donc vers le nord, vont venir buter à Chaland sur le général Boulard donc le 13, suivre les troupes républicaines qui s'avancent donc vers Noirmoutier et attaquer Saint-Gervais donc le 15. Et à partir de cette défaite, les troupes vendéennes qui sont déjà d'ailleurs morcelées, puisque vous avez Charette à Machecoul, Joly et quelques nobles de son quartier général qui, eux, refluent vers le sud. Donc il y a une dislocation, si vous voulez, de l'ensemble vendéen, maréchin, bocager du nord-ouest. Et ce 15 avril va évidemment faire retourner Charette vers le nord, Joly dans le centre de la Vendée. Et l'insurrection maraîchine, elle se disloque, elle est plus vraiment cohérente. Ça sera des petits combats d'arrière-garde contre les postes républicains installés le long de la côte ou à Chaland, mais plus vraiment une masse de personnes qui sont rassemblées pour attaquer un objectif vraiment défini.
Mais beaucoup de familles ont été décimées pendant cette période. Il y a eu quand même beaucoup de morts ici.
Alors, bon, c'est difficile, si vous voulez, d'évaluer le nombre de morts dans le Marais, parce qu'il y a beaucoup de gens dont on n'a pas recensé, évidemment, les décès. Vous avez parfois des gens qui vont faire des déclarations de décès 20 ou 30 ans après. Donc, c'est quelque chose d'important. impensable, évidemment, à notre époque. Donc, on enregistrera ces décès, mais bien plus tard. Donc, à une époque où ben, ça n'aura plus vraiment de consistance au niveau du souvenir, si vous voulez, pour les familles. Mais il y a certainement, oui, il y a eu plusieurs centaines de morts maréchins. Ça n'a pas été massif dans la mesure, si vous voulez, où on ne s'est jamais vraiment emparé du Marais avant le mois de mai 1794. Hein. Donc, le Marais a toujours plus ou moins échappé, si vous voulez, à une conquête républicaine vraiment complète. Mais il y a bien sûr eu, au cours des combats, des gens qui ont été tués. Il y en a qui ont été guillotinés au Sable d'Olonne, pas en très grand nombre, mais enfin quand même quelques-uns. Donc il y a eu évidemment beaucoup de morts, même si ça n'a jamais pris les proportions que ça a pu prendre dans le bocage, notamment au début janvier, enfin au mois de janvier 1794 jusqu'au mois d'avril, avec ce qu'on a appelé les colonnes infernales.